Bonjour et bienvenue dans la bande originale spéciale été au menu du jour. Attention, Philippe Besson, Clémentine Célarier, Nils Arestrup, Christophe Michalak, Antoine Duléry et la bande au grand complet. Le meilleur de la bande originale spéciale été, c'est parti.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Ça, j'avoue que c'est le gros coup de chance, parce que ton pote, il devient président de la République, c'est pas mal. Disons que tu peux bouffer dans n'importe quel resto, t'es sûr d'avoir une table. Ça, c'est le petit côté pratique. Alors, ce livre, vous l'avez dit, voilà, retrace les campagnes d'Emmanuel Macron, des débuts jusqu'à la victoire finale. D'ailleurs, heureusement qu'il a gagné à la fin. Parce que sinon vous auriez bossé pour rien, hein. En plus, écrire un livre sur un mec que tout le monde attend et qui perd à la fin, ça existe déjà. Ça s'appelle une biographie de Benoît Hamon. Non, mais est-ce que vous imaginez la France et la vie d'Emmanuel Macron s'il avait perdu? Le mec, il a toujours été en avance sur tout. C'est un winner. Vous venez d'en parler. Ils font ça 200 à l'heure à côté de nos vies. C'est un épisode de Derrick. Non, mais c'est vrai, c'est lent. On s'ennuie un peu. On fait du théâtre en seconde. Il sort avec la prof. On a péniblement notre bac. Il rentre à l'ENA. On bosse au McDo. Il devient conseiller du président de la République. On découvre la politique et on hésite entre la droite et la gauche. Bon, voilà, lui aussi, mais bref, c'est pas grave. Mais ça... Non, mais c'est vrai que s'il n'avait pas été président, la France n'aurait pas eu la chance d'avoir ce génie aux manettes. En moins d'un an, le mec, il a tenu tête à Trump et il a réformé le code du travail. Moi, depuis un an, j'ai une thèse bon, à ma mère pour le cadeau d'anniversaire de mon père et ma réforme majeure a été de changer le code Wi-Fi de mon appartement. Il veut retirer la Légion d'honneur à Harvey Weinstein, c'est formidable. Bon, qu'il la retire aussi à Ali Bongo et à Mohamed Ben Naïef aussi au passage. Et puis il y a Sophie Davant, on ne sait pas pourquoi elle l'a. Non mais...
C'est moche.
C'est vrai qu'Ali Bongo, ça fait tâche. Et puis, s'il avait perdu, on aurait eu Le Pen au pouvoir. Franchement, Le Pen, ça aurait été la honte. Elle est entourée de gens inconnus, ça n'aurait pas donné une bonne image de la France, alors qu'avec Macron et son gouvernement, on rayonne au niveau international, grâce à notamment des stars de la politique, comme Brune Poirson ou Geneviève Darrieussecq. Et ça, c'est beau, à l'international. Non, mais c'est vrai, la dernière fois qu'elles ont été à Matignon, Lucie a dit, non, c'est fini la journée du patrimoine, mesdames. Donc voilà, Le Pen au pouvoir, je suis pas pour. Et en même temps, c'est vrai que le métier d'humoriste, ça nous aurait facilité les choses, quand même. Franchement, vous avez vu, Macron, il fait rien, il est lisse, on dirait un prof de maths. Alors forcément, on lui saute dessus dès qu'il dit bordel ou feignant. Mais il a 39 ans. Je préfère qu'il dise bordel que perlimpinpin, c'est vrai. Et le Pen à l'Élysée, franchement, j'avoue que j'avais envie de voir ça. Elle a réussi à tomber dans une piscine vide. Tu la laisses un week-end à l'Élysée, il y a la toiture qui s'effondre. Non mais il y a la France, il y a aussi l'homme qui est Emmanuel Macron. S'il n'avait pas été élu, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron aurait fait de ses journées? Moi je le sais, ma tante a un ado à la maison, elle n'en peut plus. Non vraiment, c'est bien Macron qu'il ait été élu. En plus, ça nous a permis d'apprendre l'existence de Brune Poirson et de vous recevoir ce matin, Philippe Besson. Alors rien que pour ça, merci Manu.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Alors en fait, moi je voulais d'abord assumer d'où je parle. C'est-à-dire, je dis effectivement d'où je parle dès le départ. Et je voulais assumer ma subjectivité. En aucun cas, je suis journaliste. J'étais pas tenu à une objectivité, à une neutralité quelconque. Au contraire, j'étais tenu à la subjectivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'empathie, la sympathie, la fascination quand ça le suppose. Ça veut dire parfois la lassitude ou la colère quand ça l'exige. C'est vrai que j'ai à son égard de la sympathie, mais la sympathie, me semble-t-il, ça n'exclut ni la lucidité ni la franchise. C'est-à-dire, comme je le connais un peu, je vois ce que sont ses qualités, je vois aussi ce que peuvent être ses travers.
Quels sont ses travers, justement?
Je pense que c'est quelqu'un qui écoute finalement moins qu'on ne le pense. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand vous êtes face à lui, vous regarde, accorde beaucoup d'importance à ce que vous êtes en train de dire, sollicite votre opinion. Puis à la fin, vous vous dites, mais est-ce qu'en fait il a tenu compte de ce que je lui ai dit? Vous dites, ben non. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui écoute beaucoup. C'est aussi quelqu'un qui se dévoile très peu.
Mais est-ce que c'est pas quelque chose de président? Est-ce que tous les présidents ne font pas ça au final?
Alors, j'en sais rien. C'est-à-dire que justement, sur la part « je me dévoile peu », je trouve que, justement, on sort de deux présidences, Sarko et Hollande, qui étaient des présidences horizontales, triviales, transparentes, etc. Lui, il a l'idée de la rareté de la parole présidentielle, de la verticalité, de l'opacité. Donc, ce qui est assez curieux, c'est qu'il reste quelqu'un d'assez mystérieux et assez opaque. Alors, c'est frustrant, parce que vous dites « je comprends pas tout de ce bonhomme », et en même temps, c'est assez rassurant dans l'exercice de la fonction présidentielle. Mais c'est vrai qu'il est quelqu'un d'une humeur assez égale. Mm-hmm. C'est pas quelqu'un qui cède à l'euphorie, ni quelqu'un qui cède au découragement. Il est assez, il tient bon dans les turbulences. C'était d'ailleurs une des révélations pour moi, parce que moi je me suis dit quand même, il a jamais été élu par qui que ce soit, il a jamais fait la moindre campagne de sa vie. La campagne électorale présidentielle, c'est le sommet de la violence politique. Comment va-t-il tenir face à ça? Et il tient bon. Donc c'est à la fois, encore une fois, rassurant et un peu frustrant. par moment.
Mais vous parlez d'humeur égale, mais là, dans le livre, là, vous dites que vous avez une révélation, une épiphanie. C'est le 30 août, ouais. Vous dites, il sera président.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le jour où il démissionne de Bercy, et le soir, il est au journal télévisé de 20h. Et je trouve que, je suis sensible aux images, l'image à ce moment-là, parce qu'au début, j'ai l'image sans le son, en fait. Et donc, je vois cet homme-là, et je trouve qu'il y a une espèce de posture très monarchique qui est liée à l'iconographie du journal, cette espèce de plateau comme ça, horizontal. Bon. Et puis, il y a une espèce de discours républicain qui est tenu, et je me dis, mais en fait, oui, ce type pourrait bien être président. Et puis après, juste après, quand même, après mon illumination, ouais. Parce que ça fait de moi un illuminé.
J'ai une forme de ferveur, hein,
oui,
quand même.
Oui, mais juste après, il y a la lucidité qui revient. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il se trouve que j'aime la politique depuis longtemps, je connais mes fondamentaux en politique, et je me dis, bon, d'accord, j'ai eu l'impression qu'il allait gagner, mais maintenant, revenons aux fondamentaux, il n'a pas de parti, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'histoire, mm-hmm. son concept est de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche, ça a constamment échoué depuis le début de la Ve République. Franchement, la probabilité qu'il l'emporte est assez faible. Mais précisément, je me dis, tant pis, ça sera quand même, quoi qu'il arrive, une aventure hors norme. Donc, lançons-nous dans l'aventure hors norme.
Vous avez d'autres visions comme ça qui vous
traversent Je ne peux pas en parler ici, il est trop tôt.
À ce propos, moi, je voudrais revenir à la littérature, puisque c'est un héros de roman, ça va dans le fil de ce que vous dites. Vous dites à un moment, page 19, il est tentant d'aller débusquer un référent littéraire. Ah, oui. Alors, vous évoquez Frédéric Moreau, hein, le jeune provincial de l'éducation sentimentale qui monte à Paris.
Qui a une apparition, lui aussi, hein,
Adolphe, voit cette femme. Adolphe de Benjamin Constant, Eugène de Rastignac, oui. Hein, le banquier ambitieux, donc il y a des analogies. Julien Sorel, Fabrice Del Longo, qui sont des héros stendhaliens. Après, vous en rajoutez une louche, vous évoquez Cyrano, carrément.
Mais c'est pas vous qui évoquez Cyrano, hein.
Non, c'est Mathieu, l'économiste.
Voilà. Oui. Voilà. Oui, enfin, bon, vous l'évoquez. Mmh. Et puis, les mêmes questions à un moment d'Hernani. Mais en fait, il y a un personnage de roman à qui on pourrait comparer Emmanuel Macron, auquel vous n'avez absolument pas pensé, allez-y. Et je le regrette, ben c'est le Schpounz de Marcel Pagnol. Le Schpounz, au départ, c'est un obscur commis, oui. Personne mise 3 copecs sur lui,
c'est vrai.
Il démarre de zéro, il rêve de devenir vedette, son oncle lui dit « tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout
oui.
Et le Schpounz, contre toute attente, alors que personne ne croit en lui, réussit, devient une immense star. Donc Macron, c'est le Schpounz.
Et ça c'est pas Julien, c'est pas héros romantique. Est-ce que ça serait pas plutôt Hollande, comme... le Schpounz
Non, parce que lui, le Schpounz, il va réussir contre toute attente et il devient une immense vedette. Et tout le monde se met à le respecter alors qu'on le méprisait au départ.
Sauf
qui est un peu le cas de Macron.
Sauf que cette référence, tout d'un coup, vu la liste citée précédemment, des Julien Sorel, des Frédéric Moreau, des Cyrano
froid, hein.
Aussi. Cyrano, on va y revenir à Cyrano. Tout d'un coup, le Schpounz, votre côté durassien Emmanuel M prend un petit coup.
Je vous confirme.
Ouais.
Mais l'analogie n'est pas forcément mauvaise. Mais il y a aussi des analogies qui étaient plus difficiles. Par exemple, à un moment, je cite des héros de Fitzgerald. Les héros de Fitzgerald, ils ne sont pas tous sympathiques.
C'est un journaliste américain. Je crois qu'il avait fait
absolument.
Un article, hein,
ils
ça.
Finissent un peu, ils sont souvent assez dépressifs. Derrière, il y a quand même quelque chose d'assez bizarre dans l'arrogance ou l'insolence. Donc, ça n'est pas que sympathique, une analogie.
France Inter, la bande originale, le best-of.
J'ai entendu sur cette chaîne, sur France Inter, un jour en roulant, j'adore rouler, écouter la radio, écouter surtout Inter et puis France Culture aussi, quelquefois, c'est vachement passionnant de rencontrer
Inter.
Des gens.
Surtout
Inter, voilà. J'ai entendu Jacques Rougerie.
Ouais.
Jacques Rougerie, c'est donc un architecte de l'océan. Et ce mec est passionnant. Enfin, cet homme est incroyable. Et je me suis dit, putain, c'est là qu'ils vont aller. Donc évidemment, ils vont découvrir cet endroit qui existe dans mon roman. Ils découvrent un autre monde. Et bon, ce monde a l'air d'être un monde un peu plus ouvert que sur la Terre. Bon, ça, c'est complètement inventé, hein. Mais bon, voilà. Ouvrir les portes à des êtres qui sont différents, ça vous enrichit. Moi, c'est ça que j'ai voulu raconter dans mon roman.
Mais c'est ce qu'on appelle une utopie. C'est une utopie, le lieu que vous avez inventé.
C'est une utopie, Albert.
Et est-ce que c'est un lieu dont vous aviez
mais
besoin?
Mais au bon sens du terme, attention,
oui,
c'est un
de toute façon, pour moi,
quand l'utopie,
c'est
très
bon
stimulant
sens.
Pour l'imagination et pour la réflexion aussi.
Oui.
C'est de l'utopie que sortent des réalisations très concrètes.
Oui,
donc
oui,
c'est pour
c'est
ça
vrai.
Que j'ai beaucoup aimé votre livre.
Merci,
c'est un
Albert.
Univers que je connais un peu.
Merci,
et
oui,
si c'était comme ça, ça serait satisfaisant.
Mais alors justement, oui, dans le livre, en fait, le personnage de Rita est aussi confronté à la réalité. Non seulement elle rencontre ces êtres un peu différents qui vont l'enrichir, mais aussi elle se rend compte de leurs conditions de vie. Et là, j'ai senti vraiment dans le roman un vrai plaidoyer en faveur de l'action pour ces personnes-là qui sont dans des centres où il n'y a pas de moyens. Rita raconte ça, qu'il n'y a pas de moyens, c'est vraiment de la débrouille.
Comment on dit, un endroit, vous savez, comme un, pas un dépotoir, mais presque.
Enfin, ouais. La poussière sous le tapis. Quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'on met des gens et puis on les endort un peu avec des cachets, etc.
Bah, c'est pas un peu, c'est. Oui, on voilà. Les assomme. Alors, en plus, très souvent de médicaments, hein. C'est
voilà.
Pas un peu.
Alors
c'est...
en plus, Albert, qui est très concerné, me.
C'est de la survie.
Me dit que c'est fou parce que moi, je n'ai pas vu ça concrètement.
Vous n'avez pas
je
été
l'ai
observé.
Imaginé. Ouais. Mais je l'ai imaginé parce que j'ai vu, en étant en France, les personnes donc empêchées, donc voilà, qui sont différentes, qui ont des contraintes physiques ou mentales, elles sont bizarrement, enfin, il n'y a pas d'accès. Par exemple, quand on fait un spectacle avec des personnes en fauteuil roulant, en France, on peut pas parce que non, mais je rigole parce que je vais pas pleurer, je vais pas là pour parce que les personnes en fauteuil ne peuvent pas accéder à la scène. Ouais. Non, mais c'est délirant. C'est que vous venir au spectacle, voir le spectacle, mais pas à une scène. Bon. Sauf
même
dans
déjà
certains
pour
endroits.
Aller dans des salles, déjà, c'est
oui,
dégale,
c'est très accessibilité. Mais ce que je voulais surtout, parce que on associe souvent, donc, cette contrainte ou cette invalidité à quelque chose de triste. Moi, j'avais envie de dire que ce n'est pas du tout triste. Ouais. Enfin, c'est triste. À la base. Dont on parlait tout à l'heure avec Albert. Donc, à partir du moment où c'est horrible, eh ben, il y a quelque chose qui naît de ça, dans la rencontre et dans la créativité. Je l'ai vécu avec des amis atteints de la maladie de Charcot, par exemple, et alors tout d'un coup, c'est des êtres, comme leur corps part, si vous voulez, et qui sont en fauteuil, puis ils peuvent plus manger, ni... Eh ben, il y a un truc qui naît, une force jaillissante qui à moi m'a fait du bien.
Qui irradie autour.
C'est pas que moi, c'est pas que nous faisons du bien aux personnes qui sont atteintes, qui sont. C'est que eux nous font du bien parce que le contact qu'on a avec eux et tout ce qu'on peut faire quand on voit la force que ces êtres décuplent. Enfin, mes copains de vestiaire sur France 2, ils ont une espèce d'autodérision. Ils font ça, ça s'appelle vestiaire, c'est pas dans des trucs de piscine. Ils ont pas de bras, pas de jambes. Il y en a un qui dit attendez-moi parce qu'il a pas de. Enfin bon, bref, c'est monstrueux peut-être. C'est complètement dément, si vous voulez.
C'est une super série.
Et c'est drôle, et parce qu'il y a quelque chose d'autre à trouver avec ça. Moi, c'est ça que j'avais envie de raconter. Il y a un truc à vivre. Parce que, ah oui, on dit après, oui, mais on a peur, moi, ça me fait peur. Moi, j'ai fait nous avons fait un spectacle à Avignon où il y avait peu de gens qui venaient parce qu'ils avaient peur de voir des personnes en fauteuil. Mais alors, moi, je ne juge pas, on peut très bien avoir peur. Le problème, on a peur, c'est parce qu'on n'est pas élevé. On n'est pas éduqué. On ne voit pas assez de personnes à la télévision, dans la rue, qui sont des personnes différentes, en fauteuil.
Ça veut dire
sont...
que ça pose la question de la représentation à la télévision, qui est quand même la fenêtre ouverte sur le
par
monde.
Par exemple.
Ça veut dire qu'il faudrait faire quoi, par exemple?
Il faudrait, par exemple, déguiser, par exemple, costumer, féeriser des fauteuils, par exemple. Si vous voyez un fauteuil avec une crinière de. Pas une crinière, n'importe quoi. Des volants, vous avez comme un trône.
Vous avez des cheveux comme Tignasse dans le roman. Tignasse pourrait très bien mettre des cheveux partout sur les fauteuils.
Ben, Lorraine, j'ai été la voir vendredi, ma copine qui a la maille de Charcot. On a fait un truc féerique avec une copine danseuse, Marie, voilà, et qui était danseuse sur ses jambes, Lorraine sur son fauteuil, elle glissait, c'était, bon, je sais pas si les gens comprennent ce que je dis, mais bon,
non, c'est si, ça. C'est une performance,
il y avait des espèces de tulle en tutu, il y avait comme un tutu autour du fauteuil, une espèce de crinoline comme ça, et c'était féerique parce que ça peut devenir féerique, et c'est ça tout le paradoxe, c'est que si Lorraine et des amis ou si les copains de vestiaire n'avaient pas eu ces empêchements, cette invalidité, ils n'auraient pas créé vestiaire et on n'aurait pas créé des spectacles, on ne serait pas rencontrés, j'aurais pas écrit ce livre parce que j'aurais pas eu cette. C'est ça le paradoxe.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Si on chantait. Ah pardon, je suis à l'antenne, je ne savais pas. Ah, je passe donc le micro au Daft Punk et au Parcells avec Overnight. I'm not afraid to
hold you back. The moment I was wishing, it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing, it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing, it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing, it's overnight. Slow down, never. I know now, I know better. I need it more than ever.
Overnight Parcels avec Daft Punk. Heureusement, elle ne porte pas de casque, c'est notre chevelu Larousse incendiaire, mais coloré, Alison Wheeler. Alison, si je peux me permettre, notre meilleure recrue depuis des années, elle est formidable, fantastique,
merci.
Un talent incroyable,
merci,
incomparable.
Daniel,
toujours en servir de texte ciselé, il n'y a jamais, il y en a jamais en trop, c'est de l'épure totale avec 100% de réussite.
Et elle n'est pas belge.
Merci beaucoup Daniel, merci de m'avoir si bien introduite, ça fait du bien. Parce que ces derniers jours, je vous dis la vérité, je me sentais pas bien, j'avais des frissons, des courbatures, des bouffées de chaleur, j'allais beaucoup aux toilettes. Vous l'aurez compris, je suis tombée amoureuse. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Oh là, j'avais oublié tous ces symptômes bizarres.
D'où ça sort ce bonjour?
Je sais pas. Quand je suis amoureuse, j'ai un comportement étrange. Je suis tout le temps gay, je mets du parfum à l'intérieur de mes coudes. Dans les squares, je prends des enfants que je connais pas dans les bras. Ouais, je respecte plus rien. Je me sens comme Grégoire qui chante du Oasis sur un piano. Je suis tellement légère, j'éclate de rire à des moments imprévisibles. Je ris aux blagues de Daniel Morin, n'importe quoi.
Ah oui, c'est fou ça.
Mais ouais. Je vais pas refaire les erreurs du passé. Je veux pas aller trop vite. J'hésite à lui faire un cadeau pour notre anniversaire. Ça fera un quart de mois la semaine prochaine. C'est nos noces de latex. Oh, et puis je fais ce que je veux. Hein. C'est pas bon de se poser trop de questions du genre à quoi il pense en ce moment? Est-ce qu'il m'aime pour moi ou juste pour se rapprocher de ma sœur? C'est qui la salope sur son fond d'écran? Il a pleuré devant la liste de Schindler? Je me pose trop de questions, putain. Ah, je suis heureuse et c'est magnifique la vie à deux. J'essaie au maximum, moi, de faire en sorte que chaque jour passé ensemble soit une fête. Quand on se réveille le matin, je bouffe une noisette de Flocaril et je chante à l'oreille tout doucement. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai. Bah oui, l'amour ça rend très de dingue. Là j'ai commencé un herbier avec ses caleçons. Par exemple là j'ai un Célio Slim Fit taille L bleu nuit. Et la légende c'est joli missionnaire tranquille sur machine à laver. Je trouve ça beau, c'est poétique non? Je m'estime très heureuse parce que les gens se font tellement de mal par amour. Regardez Élie et Dieudonné, Stone et Chardenne, Jean-Jacques Bourdin et le journalisme, Jérôme Carville et l'argent qu'elle gâchit. Alors qu'au départ c'était que de l'amour. Je suis pas une femme possessive. Non, je veux passer un maximum de temps avec lui, c'est tout. Hein? Du coup, je l'ai installé dans ma cave. D'ailleurs, je laisse la radio sur France Inter branchée pour lui tenir compagnie. Il m'entend là. Compagnie, il m'entend là en ce moment. Ne me quitte pas. Ne me... Il adore Brel, il adore. À chaque fois que je chante, il pleure. Hier soir encore, il me disait « Aïssan, mon amour, si tu me détaches, je te promets de disparaître et de rien dire à la police. » Il est pas trop mignon. Lui, au moins, il m'aime comme je suis, avec mes forces, mes faiblesses et mon injonction d'éloignement. Et moi, je l'aime comme il est, avec ses forces, ses faiblesses et ses goûts douteux pour le karaoké. Ne t'inquiète pas, maman rentre ce soir à la maison, je t'aime mon Agui.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Sur la piste des savanes, je suis le caravanier.
La cavalerie de Julien Clerc. La caravanerie. Le caravanier. Je dis n'importe quoi.
Ouais, le caravanier, d'accord.
Le caravanier, rien à voir avec la cavalerie.
Ça, c'est votre choix musical, Nils Arestrup. Oui. Pour cette année 68, ça vous évoque quoi?
Souvenir de ce temps-là, de cette époque-là. Et c'est l'année où j'ai joué la première pièce que j'ai jouée de ma vie, qui s'appelait « La vie est un songe », une pièce de Caldera. Mmh. Et j'avais comme collègue Alain Souchon, qui à ce moment-là
Souchon
était un petit peu chanteur, un petit peu comédien. Et on était tous les deux inconnus, on avait 20 ans, ou un petit peu plus, et à chaque fois qu'on descendait vers le théâtre, on chantait tous les deux ça. On chantait Julien Clerc, parce que c'était l'air qu'on entendait à l'époque. Et donc ce souvenir partagé, et cette amitié naissante avec Alain Souchon, m'a poussé à penser que cette époque-là, 68, c'était aussi ça.
Oui, c'est ça, c'est mai 68, vous découvrez le théâtre. Je crois que l'histoire, c'est que vous devez travailler à l'usine pour mai 68, et puis l'usine de votre père, je crois. Puis vous décidez de changer un petit peu de chemin.
Oui, c'est pas moi qui ai décidé, c'est 68 qui a décidé. C'est-à-dire qu'il y a eu la grève, et il y a eu la grève des usines, il y avait la grève de l'usine de mon père, et je devais en effet, dans les mois qui suivaient, travailler dans cet atelier de bascule et de balance où travaillait mon père. Et 68 a été comme une espèce de parenthèse qui a arrêté un peu le temps. Et qui a permis à certaines personnes de penser ou de réfléchir avant de se lancer dans ce qui était normal, dans ce qui était prévu, puisque mon père était ouvrier et que je devais être ouvrier. Et donc c'est cette parenthèse-là qui m'a permis en effet de penser que peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire ou à visiter, et que j'ai croisé le regard d'une femme qui m'a donné envie d'aller ailleurs.
Et c'est Tania Balachova.
Ouais.
Tania Balachova, vous la voyez à la télé, je crois.
Noir et blanc, en plus. Mais je voyais quand même qu'elle avait des yeux, je sais pas, des yeux particuliers. Elle avait une toque. C'était une héritière de la Russie blanche qui s'était installée à Paris. C'était un très grand professeur. Et puis je l'entendais parler à la télé, je sais pas, différemment. J'avais jamais entendu ça. J'avais jamais entendu ce type de paroles sur un art que je ne connaissais pas du tout. J'étais très éloigné de tout ça, sur le théâtre, sur qu'est-ce que c'est que le théâtre? Qu'est-ce que ça peut apporter? Il y avait des élèves, il y avait un cours, tout ça. Et j'étais très séduit par cette femme, par sa douceur. Et donc, j'ai été à l'endroit où elle donnait des cours, rue de la Gaîté, et par appétit de la rencontrer.
C'était une idée
fixe.
Il fallait la voir.
Je voulais la voir. Je voulais voir si elle était vraie, d'une certaine manière. Si cette douceur, cette gentillesse, existait réellement. Et donc j'ai été rue de la Gaîté et je l'ai rencontré, croisé, et je ne suis plus jamais parti de là.
Ouais, vous avez suivi ses cours. Et au début ça n'a pas été forcément simple, parce que vous n'étiez pas le genre de jeune homme à aller sur scène pour jouer. Vous observiez beaucoup.
Oui, ben j'y connaissais rien, j'avais rien lu, je savais pas. Je voyais des gens qui parlaient très fort, qui allaient au bistrot, qui buvaient des verres de vin rouge, qui avaient des livres dans les poches. Et c'était très, très impressionnant pour un timide, quoi, pour un mec qui connaissait pas grand chose. Et donc, je me suis tu, au fond de la salle pendant plus d'un mois, puisque j'avais réussi à payer l'autorisation de la voir. Pendant un mois. Et au bout d'un mois, elle est en effet venue me voir personnellement. Elle m'a dit: mais vous pensez que vous pouvez continuer à regarder les autres comme ça, sans rien tenter, sans rien risquer? Eh bien, si vous ne tentez rien, si vous ne risquez rien, vous allez quitter cet endroit la semaine prochaine. Et donc, je me suis retrouvé coincé. Il y avait un mec à côté de moi. Je lui ai dit: mais tu vois, je ne sais pas qu'on pourrait travailler, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et il travaillait sur Caligula de Camus. Et donc voilà, j'ai été chez lui, j'ai appris le texte par cœur, et puis le samedi suivant, je montais voilà pour la première fois sur un plateau au théâtre de la Gaîté Montparnasse, dans la scène de Caligula avec le jeune Scipion.
Et le regard voilà. du maître posé sur vous, ça, c'était quoi ?
Bah, c'est toujours embêtant à raconter parce que c'était la première fois de ma vie que je disais quelque chose d'autre que moi. J'essayais d'être autre chose que moi. Et je me suis senti d'un seul coup libéré, quoi. Très, très, très bien. De pas être moi, c'était un truc chouette. Vraiment chouette. Voilà, j'ai passé la scène. Elle a pris un long temps. Il y a eu un long silence. Il y a eu un fauteuil qui claque comme ça dans le noir. Elle s'est levée. Elle est venue au bord du plateau. Elle a d'abord parlé à celui qui me donnait la réplique. Et puis après, elle m'a dit des choses extrêmement gentilles. Voilà. C'était la première caresse que je recevais.
Quelle caresse ?
Donc ça m'a encouragé, ça m'a rassuré un peu et ça m'a autorisé à rêver.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
À un moment, je lui dois tout, hein, celle qui m'a élevé seule. C'est elle qui était infirmière, qui travaillait jour et nuit et qui faisait des ménages pour que j'aie des études correctes. Mm-hmm. Donc je lui dois tout. Justement, c'est les valeurs qu'elle m'a inculquées, très présentes et qui sont toujours au fond de moi-même. Donc voilà, je lui dois tout.
C'est toujours très touchant, enfin, je trouve, de voir ce bouquin à l'aune de ça. D'ailleurs, vous faites référence à votre dessert préféré, enfant.
En plus, le flan.
Le flan, mais il y a
il
aussi.
Revient toujours, hein.
Mais il y a la fraise Melba.
Ah, la fraise, ah. Mais en fait, j'aime tout, c'est
mais
ça
ouais,
mon problème.
C'est ça votre problème, ouais. Mais je comprends.
En fait, je vous avais vu un truc, je crois que je ne l'ai jamais dit, ça. J'ai mangé beaucoup de fraises lorsque j'avais 9 ou 10 ans, et on m'a diagnostiqué allergique à la fraise. Alors, je ne t'explique pas
le drame.
J'étais vraiment très, très mal. Donc, pendant un an, je n'ai pas mangé de fraises.
Mais vous aviez les symptômes de l'allergie à la fraise.
Ah, j'étais rouge fraise.
Ça ne vous inquiétait pas.
Rouge tagada.
Je me suis inquiété sur le coup. Alors, pendant un an, je n'ai rien mangé, et puis finalement, petit à petit, maintenant, je en mange et tout se passe bien. Donc, alléluia.
Et alors, toutes ces recettes, hein, j'en ai cité quelques-unes, mais alors c'est vrai, le baba au rhum, la charlotte, les madeleines, le pain d'épices, la brioche. Vous n'hésitez pas aussi à faire référence et à vos confrères.
Alors, ouais, c'est très élégant. C'est un truc qui me touche énormément parce que, en fait, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi en achetant le peu de magazines et le peu de bouquins qui existaient dans le monde de la pâtisserie. Et je me suis formé comme ceci, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise un gâteau en règle générale, avec un biscuit, un croustillant, une crème et une mousse, eh bien, la mousse, elle vient toujours de quelque part. C'est une mousse que vous avez goûtée chez un confrère qui vous a légué sa recette. Et ça, à un moment donné, il faut arrêter de se chatouiller. Il faut le dire. Il faut arrêter de croire qu'on fait les meilleurs gâteaux du monde. Et je vois la nouvelle génération qui s'éclate sur Instagram, ça c'est super, mais il y a toujours une histoire à tout. Et je suis vraiment à ce niveau-là, on me surnomme le Wikipédia de la pâtisserie du sucré, parce que dès que je goûte un gâteau, dès que je vois quelque chose, je sais exactement d'où ça vient, d'où ça a été pompé aussi souvent.
D'accord.
Et je trouve que c'est dommage, il ne faut pas avoir peur de revendiquer. Moi le premier, peut-être pas les trois quarts, mais une bonne moitié de mes recettes viennent de mon ami Pierre Armé, et de ces 50% de recettes, il y a certainement 25% de recettes de Gaston le nôtre. Il ne faut pas en avoir peur, c'est un héritage.
Et vous parlez de bibliothèque culinaire, justement, et de mémoire gustative. Comment, c'est quoi, au juste, une bibliothèque culinaire ? C'est que vous avez plein de bouquins ou...
Alors, je vous avoue plein de choses assez délicates. C'est que j'ai mangé des raviolis en boîte et de la purée déshydratée et des soupes déshydratées pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de 18 ans.
Ça, c'est un vrai chef.
Voilà.
Il n'a pas peur de déshydrater.
Mais non, mais concrètement. Ma maman m'a acheté des crottes de chocolat, je ne sais plus comment on appelait ça, en grande surface. Voilà, moi, ça a été mon quotidien. Quand je travaillais, j'avais 19 ans, je travaillais à Bruxelles, j'avais pas une thune, j'avais de quoi m'acheter un cornet de frites, donc je demandais au mec qu'il me mette un max de mayonnaise, et j'achetais, excusez-moi, mais c'est vrai, des chocolats Léonidas.
Ouais.
Donc en fait, c'est du beurre émulsionné, la trémoline et l'extrait de café. On met une amande dessus, c'est enrobé chocolat blanc. Ça coûtait pas trop cher à l'époque et je me tapais un gros sachet avec, je sais pas, 10 bonbons. Voilà. Ça, c'était mon repas de la journée. Un énorme cornet de frites le midi et ce chocolat que je faisais traîner jusqu'aux 4 heures. Et ben, c'est ma culture, c'était comme ça. Donc, lorsque j'ai commencé ce métier, j'ai commencé à travailler avec des matières premières nobles et des grands établissements, et bien, j'ai éduqué tout doucement mon palais. Et j'ai dû vraiment tout reprendre à zéro, ben, c'est pour ça que j'ai acheté tous les magazines et tous les livres existants sur la pâtisserie. Malheureusement, il y avait très peu à l'époque. Et je me suis forcé à refaire toutes ces recettes pour les analyser. Et maintenant, par exemple, un cake citron, et bien, j'ai trouvé trouver des cakes citrons de Gaston Lenôtre, de Pierre Armé, de Philippe Conticini, de tous mes copains, etc. Et je les ai tous faits. Et je me suis posé la question, mais pourquoi lui met de la crème épaisse et pourquoi lui il émulsionne le beurre et pourquoi? Personne n'était capable de m'expliquer pourquoi. Et en fait, je l'ai appris tout seul en goûtant
en
et en mémorisant. Ouais.
Voilà. Mais est-ce qu'il y a des gens qui font du Michelac maintenant?
Certainement, ouais, certainement. Et puis surtout, ma plus grosse fierté, c'est tous les jeunes qui sont passés chez moi, en tout cas, et qui ont été formés. On retrouve très souvent la Rolls Caramel, les financiers La Fleur d'Oranger, voilà, plein de petites choses comme ça qui sont un peu une marque de fabrique.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Stop, top, top. On arrête les questions. On arrête également les réponses. Place à la musique et à Ayam qui danse le Mia.
Jeff Fada, je crée des gueux. Je vous prenne tous ici, un par un. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à nos trois corps en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des Buloni. Dès qu'il passait, Caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des salles se former. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via Planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après, on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles, c'était moins rose.
Oh cousine, tu danses ou je t'explose?
Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué.
Oh, comment tu parles à ma soeur?
Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière le cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait, fils, t'y a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, attends, je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi, je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi. K8, c'est 73, JM 120, mon petit. Du grand voyou à la plus grosse moquette. La main sur le volant, avec la moquette. Par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros.
Sur mon père.
La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malin Coco, la coupe à la Marley, Pascal et Terrasta, des afros sur François et Joe. Déjà à la danse à côté des personnes, ne touchait une bille. On dansait le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia.
Sur Radio Chacal en duplex live avec le Star Flash Laserlight Action Club, c'est tout de suite 3, 2, 1, DJ.
Ah, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir encore. New Star Flash Laserlight Action Club, nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des t-shirts Marlboro, des autocollants pionniers, des cassons JB, des peluches. À la technique, c'est Michel, le light jockey, c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut, allez, c'est parti.
Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia, pas de pacotille. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient. Les différences effacées et des rires éclatés. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Foutaise, c'était les ragots des jaloux. Et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire
aïe aïe, aïe.
Vous êtes bien sur France Inter, c'était Je danse le Mia de Ayam. Je sais pas pourquoi ce titre, je pense que ça peut marcher. Lui, il ne marche pas. Il court pour maltraiter l'actu. C'est notre athlète, Tanguy Pastureau. Tanguy, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez nous parler de Justin Rosenstein.
Oui, Rosenstein, c'est un type de la Silicon Valley, la vallée des geeks qui font du brezouf que vénèrent Macron et sa clique. En 2009, c'est lui qui a créé le bouton « like » de Facebook, un pouce qui sert à dire qu'on aime un contenu, alors qu'avant, le pouce servait à dire qu'on aime les camionneurs poilus en Marseille avec un chien quand on est en rade sur la 7 direction la côte. Alors tout le monde utilise le « like », Nicolas Sarkozy quand est publié un extrait de la nouvelle balade à la gratte sèche de sa femme, puis il lui dit « tu as fait un instrumental, ma tige de bambou, bonne idée », ce à quoi elle répond « mais non, sur celle-là, je chante ». Mais aussi François Bayrou quand il tombe sur une photo de lui, ou Michel Welbeck lorsque le shampoing Dop poste une photo d'un monsieur se lavant les cheveux. Il écrit alors en dessous « je devrais essayer, lol ». Et chaque pouce, c'est une donnée sur nous qui est envoyée à Facebook. Moi, j'ai mis « j'aime » un jour sur une vidéo de Grumpy Cat, c'est un chat qui tire la tronche. Depuis, l'appli me propose d'écouter vos chroniques, Daniel Morin. On passe donc notre vie à appuyer sur des pouces. Avant Facebook, il n'y avait que les masseuses asiatiques qui faisaient ça. Elles appuyaient aussi sur des bras, des nuques, des cuisses et à Pattaya, pour 30 euros, le faisaient même sur des organes sexuels. Après vous avoir dit « j'arrive, je vais me laver les mains parce qu'avant vous, j'ai eu tout un quart d'allemand ».
Oh non.
Le souci, c'est que Rosenstein, créateur du like, s'est rendu compte qu'il était accro aux réseaux sociaux. Le jour où au zoo, il a poussé son fils dans le vivarium des boas pour faire une vidéo virale, en lui criant « vas-y Kevin, j'ai vu ça à la télé cet été pendant nos vacances en France, il y a aussi un nain qui tourne une clepsydre ». Le Guardian, le journal que lit Theresa May le matin en trempant son bacon dans son thé avant de vomir, affirme même qu'il est en désintox numérique, ce qui consiste à se passer le plus possible d'Internet. Mm-hmm. Au lieu d'aller sur Facebook, il suit ses amis dans la rue. Quand il les voit jeter un papier par terre, se met à hurler « smiley colère ». Et il finit à l'HP avec le coiffeur de Trump et le chirurgien de sa femme. Alors Rosenstein, dit le Guardian, a supprimé de son 06 l'appli Snapchat. C'est un réseau social pour les très jeunes. Hein, Allison, qui est encore fraîche, a un compte Snapchat. Et bien son pseudo, c'est Mamie Wheeler.
Pourquoi Justin Rosenstein est en détox numérique ?
Eh bien parce que selon des études, à cause des réseaux, notre capacité d'attention s'est effondrée. On est infoutu de se concentrer plus de 24 secondes. Donc aujourd'hui, les éjaculateurs précoces font de très bons maris. Je t'aime, moi aussi chérie, voilà c'est fini, une clope, non, un huitième de clope sinon c'est trop long, au revoir. Moi-même, pour garder votre attention Leïla, je cite votre nom dans ma chronique Leïla.
Oui.
Sinon je sais que vous allez prendre votre iPhone afin de voir Leïla. Si le MoMA à New York, Leïla, a posté une nouvelle photo de l'expo Louise Bourgeois. En fait, on ne communique plus que par like. Moi, j'ai signé à Inter en me disant, il y a des gens de gauche, l'humain, ça compte pour eux. On va se regarder dans le fond des yeux et découvrir notre sensibilité. Ça va être une chanson de Calogero, mais en vrai. Résultat, à la pause du journal de midi, chacun est sur son portable à mater des vidéos de chats qui se lèchent le fion.
Enfin.
Désolé, monsieur Restrup, on ne fera pas l'amour tous ensemble. C'est fini, tout ça, dans les médias. C'est la génération d'avant. La preuve, quand quelqu'un crie tout sa poêle, il n'y a qu'Albert Algou qui se dessape. Justine Rosenstein lui a même fait installer un code parental sur son téléphone pour ne plus pouvoir installer d'appli. Et depuis, il profite, ce qui, vu qu'il bosse dans un bureau, consiste à regarder son ordi qu'il ne peut plus utiliser, donc il va se défenestrer en pleurant, tel le fan de Schubert dont la Freebox serait restée bloquée sur la chaîne MTV Dance. Alors dans la Silicon Valley, des écoles sans portable, et c'est véridique, ont même été créées, c'est-à-dire que ces gens lancent des applis pour nous, dont eux se protègent, Leïla. C'est comme si Rocco Siffredi venait nous dire « le sexe, en fait, les cocos, c'est nul, faites plutôt du squash, ça défoule bien, et on est deux pareils. Hein, nos portables ont pris le contrôle de nos vies, Leïla. Et si le mien n'était pas si cher, je le briserais en criant « ça y est, je suis libre. Allez Albert, moi aussi je me dessape. J'ai pas connu l'époque de Louise Rego, mais raconte-moi comment c'était d'avoir des MST. Comment c'était de vivre, tout simplement, Leïla. »
Là, je suis là.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Les débuts au cinéma et au théâtre.
Ouais. Alors, les débuts au théâtre, ma première pièce, nous sommes 80, Albert Algou, 5 en 1980, Antoine Duléry joue sa première pièce, il ouvre la porte, 1980. Non, je joue ma première pièce en 1980, et donc j'ai 20 ans, et je joue avec Isabelle Mergault.
Ah, voilà. Et vous commencez aussi au cinéma, 80.
Ouais, celle qu'on n'a pas eue, je crois, de Pascal Thomas.
Pascal Thomas.
Avec Jean-Pierre Daroussin. Jean-Pierre, on s'est connus en 79-80. Ouais, c'est ça, le film sort en 80, je le fais en 79. Voilà les premiers pas, mais la première pièce avec Isabelle Mergault. Tu sais la faire, Isabelle Mergault ?
C'est une copine à moi.
Eh ben voilà, moi aussi, c'était ma copine. C'était une copine
très proche.
C'était une copine très proche.
Très proche.
Ah, mais moi, c'était une copine très, 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 très proche.
Ah, du dossier.
Et donc, simultanément, théâtre, cinéma, vous vous dites, il n'y a pas besoin de choisir.
Ben, si, quand même, j'ai fait plus de théâtre. Je commence vraiment par le théâtre. Je fais beaucoup de théâtre. Après, je...
Pas trop de galère ?
Non, parce que finalement, j'ai toujours travaillé. Moi, j'ai eu la chance. J'ai fait beaucoup de radio aussi. Je suis venu beaucoup ici. Il y avait un type formidable qui s'appelait Pierre Biard qui faisait faire des radios à plein d'acteurs. Je me souviens avec Agnès Jaoui, tout ça. Je me retrouvais avec Marcel Beausuif. Et on lisait des trucs. J'ai fait des films industriels. J'ai fait des sitcoms. J'ai fait des... Alors, j'ai toujours travaillé. Puis à côté de ça, évidemment, je faisais du théâtre et tout ça.
Pour l'instant, on fait un petit arrêt en 1995-1996. Foule sentimentale, Alain Souchon. Et là, c'est le théâtre, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est La Puce à l'oreille, mais c'est le cinéma également avec Les Misérables.
C'est ma grande rencontre. Alors, j'ai fait évidemment d'autres films. J'ai fait Tout ça pour ça un peu plus tôt, oui, avec Lelouch, où là, il m'a fait d'ailleurs faire des imitations. Et puis après, il me dit tu aimes bien Jean-Paul Belmondo ? Je fais non, pas du tout. Il me dit tu vas jouer avec lui. Et c'est ma rencontre avec Jean-Paul en 94. Donc, rencontre très importante, puisque à la suite de ça, Jean-Paul m'engage dans La Puce à l'oreille. Enfin voilà, c'est lui qui parle à Bernard Murat de moi, etc. Enfin, et me voilà pendant 9 mois sur scène de 96 à 97. Ouais, c'est beaucoup. Et là, pendant ce temps-là.
Vous l'avez jamais rencontré avant
Jamais.
Alors ça fait quel effet ?
Ah bah c'est impressionnant. J'ai été voir Tailleur pour Dames qui jouait, et puis j'ai frappé à sa loge et il m'attendait. Et il m'a dit alors, je crois qu'on va se voir bientôt. Tu sais, un peu comme. Comme Gabin avait fait avec Ventura, enfin, toute humilité. Et j'ai fait, oui, on se voit bientôt. Puis bon, après, le premier jour de tournage, je suis arrivé à Besançon. Et là, je suis arrivé dans un hôtel. Il y avait, il me fait, il s'était caché avec Tiki Olgado. Ils avaient envoyé son maquilleur dans un truc qui n'existait pas. Et ma première rencontre, c'est avec Jean-Paul. Il me dit, viens, cache-toi. On l'a envoyé dans un truc qui n'existe pas. Et il avait une chèvre. Dès que l'autre est parti, on a tout viré dans la chambre de Charlie Coubet-Sérieux, mais tout, hein. Et on a mis la chèvre dans la baignoire, une chèvre vivante. Et on a attendu le retour de Charlie Coubet-Sérieux. J'ai dit, donc ça va, je suis bien parti avec Jean-Paul. Ma première rencontre avec Jean-Paul, c'est ça. Puisqu'il fait le con sans arrêt.
Alors vous évoquiez tout à l'heure les succès. Bah, les succès, les gros succès, ils arrivent en 2006. Il suffira de l'étincelle, oui,
qu'un mot d'amour est pour allumer le feu. Allumer le feu.
2006, vous jouez dans Jean-Philippe de Laurent Tuel et vous incarnez Chris Summer.
Oui.
Un rocker qui est devenu star dans un monde où eh bien Johnny n'existe pas. Ah, c'est pas possible ça.
Si, c'était un film c'est un film que j'aime beaucoup et c'est moi qui l'ai apporté à Johnny par l'intermédiaire de Barbara Schulz qui m'a dit écoute, j'ai un copain qui avait rien fait, qui a écrit un film pour Johnny. J'ai appelé Johnny. J'aime pas faire ça parce que je mais il me dit ah si fais-le voir. Je dis écoute, je sais pas, j'ai pas lu. Puis une heure après il me dit je le fais. Je te raconte pas. Sauf qu'il a voulu que j'aille à tous les rendez-vous avec les producteurs. Je l'ai fait avec grand plaisir. Et après, le film s'est fait. C'était sur. Je l'ai emmené voir Knock avec Lucchini. Johnny arrivé voir Knock, c'était extraordinaire. Après, j'ai assisté au repas. Lucchini imitant toutes les chansons à Johnny. Johnny me disant, je savais pas qu'il était aussi fêlé. l'autre disant, c'est énorme et tout. C'était extraordinaire. Et après, effectivement, j'ai hérité de ce rôle et ce qui m'a permis de passer beaucoup de temps avec Johnny. Donc c'était un très 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 bon souvenir et j'ai eu des moments magnifiques, notamment un jour je répète la chanson tout seul sur scène là au stade de à Villacoublay qui était censé être le stade de France. Il fallait que je fasse mes chansons, tu sais, les labiales. J'étais tout seul. Metteur en scène, bon, pas très chaleureux, il vient même pas me saluer. Je suis tout seul au monde, tu sais. Et on m'envoie la chanson et je suis vraiment perdu, seul au monde, tu vois. Et je pose mes guitares, je sais pas quoi, et d'un coup j'entends.
Non.
Je m'approche. Là, il y avait mon Johnny avec son paquet de clubs qui fait. Dis-moi, j'étais en train de dîner à la maison avec des amis. Et j'ai dit à Laetitia, écoutez, je suis désolé, mais il faut que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille voir répéter mon ami Antoine.
Chic.
J'ai l'impression.
Voilà, ça, c'est Johnny.
J'ai l'impression, vous parlez de Belmondo, vous parlez de Johnny, vous parlez de toutes ces personnes que vous admirez énormément et dont. Et
qui sont des amis aussi.
Voilà, qui sont devenus des amis.
Oui, c'est ça qui est formidable. Réussite. C'est vrai qu'en me retournant, je me dis, si on m'avait dit, tu vois, sur l'île de Bray en 76, que je suis ami avec Jean-Paul, tu sais, je me souviens. Et puis Johnny, pareil, on est parti en vacances plusieurs fois et c'est vrai que. Voilà, il y a une amitié qui s'est installée. Je suis très fier de ça. Ce sont des gens extrêmement simples et extrêmement gentils dans la vie.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
On arrête tout. J'ai une folle envie de LOL. Ah, ouf, on est sauvé grâce à Guillermo Guiz.
Bonjour les amis.
Salut.
Salut. Salut.
Alors je crois que dans les grandes lignes, je suis plutôt quelqu'un qui peut être considéré comme une merde. vous le savez pas toujours autour de cette table parce qu'on se connaît peu finalement en dehors de 7h27 passées ensemble pour de sombres raisons contractuelles. Mais moi, si le karma existe vraiment dans la vie suivante, je serai une roue de tracteur ou une dent de Daniel Morin. Vraiment, je vais skier ma merde.
Skier la même chose.
Alors nouvel exemple, ce week-end, j'étais assis à une terrasse, j'étais cool, peinard, je pensais à la mort. Quand un homme m'aborde pour me demander 50 centimes. Et alors il s'avère qu'à ce moment-là, par hasard, j'ai la somme sur moi. Et donc je lui donne en me disant, voilà, on sait jamais, il y a peut-être un dieu au fond, ce serait con de louper le paradis pour 50 centimes. Je veux dire, il m'aurait demandé 4 euros, j'aurais pris le risque. Mais là, 50 centimes, c'est l'équivalent d'un huitième de chronique sur France Inter, tu vois, ça voilà, c'est un compromis acceptable. Bref, je lui donne l'argent, il me regarde, il me dit, vous êtes originaire d'où ? Sa question m'étonne parce que j'avais pas dit un mot et tout ce que j'avais fait jusque-là, me semble-t-il, était hyper français quoi. J'avais fait une grimace en sortant l'argent de ma poche, un regard condescendant en lui donnant, puis j'avais détourné la tête, l'air de dire, tu vois, maintenant on sort de ma vie pour deux générations, perdant le capital. Je vois pas comment j'aurais pu être plus français que ça quoi, quelque part. J'ai pas commencé à me balader en permanence avec un camembert et une photo de Jean-Jacques Goldman, juste pour éviter les stigmatiser quoi. Enfin, je crois que j'ai quand même pas une gueule de péruvien et quand on voit comment je suis habillé, on se dit, bon, il a pas de goût, mais il a des papiers quoi. Bah, bon. Je finis quand même par lui dire que je viens de Belgique et là il me fait. Je peux vous demander un service ? Il me dit waouh, voilà une mendicité qui prend des proportions très exagérées. Un service maintenant ? Et puis quoi encore ? Un massage de la prostate, une dédicace de Nagui, un moule des pieds de Leïla ? Je suis un occidental moyen, moi, pour que je me mette à rendre des services à des inconnus, il faudrait que la médecine fasse des progrès fulgurants, quoi, vraiment. Et là, en l'occurrence, je suis à deux doigts d'appeler les gendarmes. Mais bon, je lui dis. Dites toujours, hein, je vous garantis pas que je serai encore à cette table à la fin de votre phrase, mais dites toujours. Et il me fait voilà, je collectionne les porte-clés. Est-ce que je peux vous demander à votre tour en Belgique de m'envoyer un porte-clés ? Mais certainement, et d'ailleurs j'ajouterai une scie sauteuse et une bouteille de Château Margaux dans le paquet pour que le DHL fasse pas le trajet pour rien. Là, lui envoyer un porte-clés gratuitement, mais j'ai défilé le compte Tinder de Mathieu Ricard, vois ça avec lui directement quoi. Parce que voilà, envoyer un porte-clés, ça voudrait dire concrètement aller au centre-ville de Bruxelles, me taper des embouteillages que t'as envie de crever dans une cheminée, payer 12 balles un porte-clés mannequin piece dégueulasse, aller à la poste, faire la queue à la poste, acheter une enveloppe spéciale, un timbre spécial et l'envoyer. Ça pour que je le fasse pour quelqu'un de ma propre famille, il faut que ce soit au minimum un donneur de moelle quoi, vraiment pas moi, ou un héritage imminent, mes cousins, cousines, tantes, t'oublies hein. Non, maintenant lui c'est. Et dites, c'est quoi ? Ce mec que je vois pour la toute première fois de toute ma vie, que je connais depuis 9 secondes, ce mec à qui je dois 50 centimes, je le rappelle sans vouloir ressortir les vieux dossiers déjà, c'est quand même quelqu'un que j'ai dépanné une petite somme, il va faire ça pour moi, gratuitement, en Europe du Nord, un jour d'octobre 2017. Putain, plus optimiste que ça, tu deviens colleur d'affiche pour Jean-François Copé, quoi, vraiment. Mais pourquoi ? Pour toi, je me dis, pourquoi pas ? Je me suis dit, pourquoi pas ? Mais je me dis, pourquoi pas ? Ça fait combien de temps que j'ai plus fait un truc chouette gratuitement pour un inconnu sans rien attendre en retour ? Parce que je suis conditionné à penser qu'à ma gueule, quoi. Donc voilà, honnêtement, je suis rentré à Bruxelles, je suis arrivé chez moi et j'ai pas eu le temps. Aller chercher ton porte-clés, honnêtement. Parce que je devais écrire ce billet. Voilà, c'est comme ça. C'est important de créer des billets si je veux rester le plus longtemps possible de ce côté-ci de la mendicité. Mais voilà, j'y ai pensé quand même fort et rien que pour ça, je mériterais un peu d'être français, je trouve. Hein.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Bon, pour l'instant, rien à dire. Hein. Il n'y a que du bon dans le meilleur de la bande originale. Et pourtant, figurez-vous que j'ai encore mieux. Et qui déjà ? Ah oui, ça me revient. C'est avec moi. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle cinéma. Cinéma avec la sortie d'un grand film, un film pour lequel on reçoit un interprète prodigieux qui n'a rien à voir avec le film dont je vais vous parler. Aujourd'hui, c'est la sortie de Opération Casse-Noisette 2. Alors, contrairement à tout ce qu'on vous dit en promo quand il s'agit d'une suite, ah, mais on peut très bien aller voir le 2 sans avoir vu le 1. Eh bien, pour Opération Casse-Noisette 2, c'est pas le cas. Si vous n'avez pas vu le premier, même si c'est un dessin animé, je vous le dis franco, non. Vous serez totalement perdu. L'histoire est plutôt complexe, hein. Je vous fais rapido un petit résumé du 1. Sorli est un écureuil malin et ingénieux. À peine débarqué en ville, il repère un magasin de noix avec un stock suffisant pour nourrir tous les animaux de la forêt pendant l'hiver. Mais pour pénétrer cette forteresse, il va avoir besoin d'aide. Assisté de ses amis, il va mettre au point un plan rocambolesque pour organiser le vol du siècle. Une intrigue de ouf, oui, qui vous tient en haleine pendant 1h22. Dans Opération Casse-Noisette 2, tout est différent. Le pitch. Nos rongeurs sont à la recherche d'un nouveau lieu de vie. Ils repèrent un magnifique parc qui serait idéal pour tout ce problème. Le maire de la ville, un très vilain, souhaite transformer cet espace vert en parc d'attractions. Heureusement, ils vont pouvoir compter sur de nouveaux amis, des milliers de souris blanches, expertes en kung-fu. Je crois qu'avec l'arrivée des arts martiaux dans l'opus numéro 2, on ne peut pas parler de suite évidente. Néanmoins, tout ça, ça sent le carton. Surexcité à l'idée d'aller voir ce film remarquable, je me suis allongé pour calmer mes nerfs à vif. Le problème, c'est que quand je m'allonge, je dors. Et quand je dors, je rêve.
Ah oui.
Bien sûr, j'ai rêvé du film, mais j'ai rêvé du film de façon un peu particulière, puisque j'ai rêvé que c'était un film France Inter. Ce qui change très légèrement la donne.
France Inter et la chaîne Animaux présentent Opération Casse-Noisette 2. Un film coup de poing, un film puissant, un film chaud devant. Dans une mégalopole américaine, ville symbole de la toute-puissance financière, synonyme d'asservissement des masses laborieuses, deux écureuils migrants tentent de survivre malgré l'adversité. Pauvres mais malins, ils remarquent une zone encore verte malgré la main destructrice de l'homme. Une zone qui est pour eux un lieu d'espoir et d'abondance, niveau noisette. Quand on est un écureuil poissard, on est poissard. La zone qui scintillait comme une future corne d'abondance est menacée. On va en faire un parc d'attractions. Si le projet voit le jour, fini noisettes délicieuses et autres glands succulents. Le drame semble inéluctable. Et pourtant, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. L'arrivée de centaines de souris expertes en kung-fu. La violence aveugle des rongeurs amis arrivera-t-elle à mettre à mal la volonté mercantile et odieuse d'un système où le bien-être financier de quelques-uns passe avant le bonheur vital du plus grand nombre? Vous le saurez en allant voir Opération Casse-Noisette 2. À mon réveil, j'étais encore plus excité. Et oui, je ne rate jamais une occasion d'aller voir un film d'auteur quand il donne un sens à la vie des hommes et aussi à celle des écureuils.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous rassure, on se retrouve demain, même endroit, même heure. En attendant, tout de suite, là, maintenant, l'impératrice est Paris.
Dans la brume électrique, elle dort sans dessous, dessus, et son corps encore inconnu laisse entrevoir son cœur qui cogne un peu plus fort, toutes ses couleurs qui qui voudrait être comme ça.